Bulle d'histoire. Hein ? Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Art District, et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. Donc, notre studio est toujours confiné, donc je fais tout ça maintenant par Skype, grâce aux techniques modernes. Et je suis avec Maïté Labat, qui travaille dans les musées, notamment au musée du Louvre, familière de l'histoire des musées, mais surtout... Et on est là pour parler de ça, qui a scénarisé un magnifique album publié par la boîte à bulles qui s'appelle Le Château de mon père, Versailles ressuscité. Donc c'est évidemment pas du tout la même histoire que celle de Marcel Pagnol, puisqu'on est dans les ors du château de Versailles. Bonjour Maïté.
Bonjour.
Première question, comment vous avez eu l'idée de faire une bande dessinée sur un personnage très connu visiblement du monde de l'histoire de l'art, très peu connu du grand public, qui est Pierre de Nolhac. Qui est-il ? Bon, on va venir un peu dans l'histoire et ses rapports avec le château, mais qui est-il ?
Alors, moi je travaillais au château de Versailles il y a quelques années, et ayant fait des études d'histoire, je m'intéressais bien plus au 19e et au 20e siècle. Et j'étais finalement, je me sentais peu proche d'un Louis XIV ou d'une Marie-Antoinette. Et en regardant un petit peu l'histoire de ce Versailles 19e et 20e siècle, je suis tombée sur Pierre de Nolhac, qui est un conservateur du château de Versailles à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il est effectivement très peu connu du grand public, un petit peu connu dans la ville de Versailles et évidemment très connu des conservateurs aujourd'hui du château. Pierre de Nolhac, c'est un spécialiste de l'Italie, c'est un spécialiste de Pétrarque, donc de l'humanisme du XIVe siècle, pas du tout un spécialiste de Versailles, mais il arrive un peu par hasard, il est nommé en 1887 attaché de conservation au château de Versailles. Il y arrive avec femme et enfant, il s'y installe et il va se prendre de passion pour ce lieu.
On va revenir sur l'histoire de la famille, parce que là aussi, même si les conservateurs actuels, certains habitent au château de Versailles, là il arrive au château de Versailles, je crois qu'ils sont deux ou trois à habiter dans le château. Il y a son chef prédécesseur, lui, sa famille et je crois le gardien-chef. Mais avant d'en arriver là, quelle est la situation du château de Versailles à la fin du 19e siècle? Donc dans les années 1880, quand Pierre de Nolhac arrive au château.
Alors à ce moment-là, on peut le dire, quasiment plus personne ne vient visiter le château de Versailles. C'est dur à imaginer aujourd'hui, et encore que dans ces temps de confinement, malheureusement, c'est le cas. Mais à cette époque, à la fin du 19e siècle, Versailles n'est plus vraiment visité. Il faut se rappeler qu'on est encore assez proche des dernières tentatives de restauration ou en tout cas d'idées de restauration de la monarchie. La Troisième République est encore assez jeune et cherche un peu à se solidifier, à s'ancrer en France. Et du coup, Versailles reste comme ça, une espèce de symbole monarchique avec lequel on ne sait pas très bien quoi faire. Par ailleurs, la guerre contre la Prusse est passée par là aussi en 1870. On se souvient, c'est la chute du Second Empire et de Napoléon III à ce moment-là. Et le château de Versailles a même été occupé par les Prussiens. Ils ont fait de la Galerie des Glaces un hôpital militaire. On a même un tableau dans les collections du château de Versailles où on voit des poêles installés dans la Galerie des Glaces, qui paraît inimaginable. Donc le château a beaucoup souffert. Non seulement il a beaucoup souffert, donc il est laissé dans un certain abandon, mais en plus, le régime républicain s'en désintéresse.
Oui, il y a des gens qui travaillent au château, notamment des architectes. Alors, je ne sais pas si l'architecte des Monuments de France existe déjà à l'époque, mais les gens qui restaurent, entre guillemets, on a l'impression qu'ils restaurent absolument n'importe comment. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas d'historien d'art qui leur disent comment faire. C'est assez étonnant, c'est assez troublant même pour nous.
Oui, en effet, on va découvrir les guéguerres un peu entre le service d'architecture et le conservateur, les services d'architectes, ceux qui sont aujourd'hui les architectes en chef des monuments historiques, et à cette époque, en tout cas celui de Versailles, on va peut-être pas généraliser, mais celui de Versailles, Marcel Lambert, pour ne pas le nommer, entreprend en effet des restaurations un peu fantaisistes. Il faut se rappeler aussi que le château de Versailles est classé monument historique très tard, hein, ce n'est qu'au début du XXe siècle, donc à la fin du XIXe, certaines décisions sont un peu prises comme ça. Un matin, on verra qu'il va scier notamment certaines statues de la façade parce qu'il trouve ça plus pratique pour les descendre.
Autre chose, c'est que Pierre de Nolag arrive au château, et là aussi on découvre qu'il y a un conservateur en chef, donc un fonctionnaire de la République, qui habite au château. On a l'impression qu'il est en villégiature permanente, parce qu'il a un atelier de peinture. Ça aussi, c'est assez troublant.
Oui, c'est troublant. Charles Gosselin, ce conservateur en chef, hein, qui est le chef de Pierre de Nolag quand il arrive, c'est un artiste en fait, c'est un artiste peintre. Donc il partage son temps comme ça entre son atelier et quelques occupations administratives à Versailles. Quand Pierre de Nolag est nommé attaché de conservation, on lui dit déjà rue de Valois que l'air de Versailles sera bon pour ses enfants. Et Charles Gosselin, en fait, il se contente de faire le service minimum. Charles Gosselin, il n'a pas manifestement cette envie, ou en tout cas de remettre en cause la place de Versailles en France à cette époque, ce que justement fera Pierre de Nolag. Moi, j'ai une petite tendresse en même temps pour ce personnage un peu haut en couleur de Charles Gosselin, le côté un peu ronflant de la République.
Ouais, mais ça sent dans l'album que vous l'aimez bien d'ailleurs, parce qu'il est, il est bien traité. Voilà, s'il y a une vraie tendresse pour ce personnage qui va transmettre à Pierre de Nolag son grade, sa villégiature. Et j'allais dire, personne n'attendait Pierre de Nolag à cet endroit-là, et il va en faire un lieu, quasiment le lieu qu'on connaît aujourd'hui, on le doit à Pierre de Nolag.
Oui, alors quasiment en effet, les conservateurs avec qui j'ai beaucoup échangé, les conservateurs d'aujourd'hui à Versailles, disent qu'ils travaillent encore dans cette manière Pierre de Nolag qu'il a eu de refaire du château de Versailles une résidence royale et pas tout à fait un musée tel que l'avait pensé Louis-Philippe au début du XIXe siècle. Ceci étant dit, quand Pierre de Nolag quitte le château en 1920, la Première Guerre mondiale est passée par là, il laisse malheureusement un château dans un état encore difficile. Il faudra d'ailleurs toute l'énergie des conservateurs suivants, l'apport financier des Rockefeller dans les années 20 puis dans les années 30, Van der Kemp hein, dans les années 50 aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens qu'on pourrait remercier pour le Versailles d'aujourd'hui. Pierre de Nolag a donné l'esprit, à donner la dynamique, à donner l'élan.
Oui, parce que bon, le mot de modernité est toujours un mot très, très galvaudé, mais Pierre de Nolag, il a en tout cas l'intuition que les expositions vont faire venir des gens, parce qu'il va faire la première exposition du grand peintre Nattier. Il va commencer à restaurer, en tout cas au plus proche de l'histoire, certaines pièces comme les salles de Marie-Antoinette. Il va aussi être à la chasse quasiment aux subventions, parce qu'il reçoit des subventions assez importantes, notamment américaines. C'est une chose qui était peu courante à l'époque.
Oui, vous avez raison, Pierre de Nolag, il est empreint d'une certaine modernité. En tout cas, moi, quand j'ai lu ses mémoires, avant de me lancer dans ce projet de scénario, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui ressemblait beaucoup à aujourd'hui. La chasse aux subventions, c'est encore quelque chose voilà, que tout président d'établissement ou tout directeur d'établissement doit entreprendre. Je trouve que là où il y a le plus de modernité chez lui, il comprend que Versailles doit retrouver sa place dans le sentiment public. Il le dit d'ailleurs quasiment comme ça dans ses mémoires. Voilà, il faut réintéresser la France à ce patrimoine, à ce joyau qui n'est plus vraiment considéré comme tel. Et du coup, il va user de tous les moyens, de la presse, dont le pouvoir est grandissant au début du XXe, de restauration, de recréer une actualité, un événement, donc, comme vous le disiez très justement, d'organiser une exposition. Mais finalement, c'est surtout cette idée de comment faire pour que Versailles revienne dans l'imaginaire collectif.
Oui, à la fois l'imaginaire collectif, mais aussi l'imaginaire de ses supérieurs hiérarchiques, de l'administration, parce que vous le décrivez très très bien, c'est bien scénarisé, on y arrive, j'allais dire, par la petite porte à chaque fois, on assiste à des réunions administratives, quelquefois très tendu, et là Pierre de Nolag, il doit faire preuve de beaucoup d'intelligence et de beaucoup de finesse pour obtenir de l'argent, mais pour obtenir ne serait-ce que le droit de faire une exposition d'ailleurs.
Tout à fait. Moi, j'ai pris, là aussi, ça se sent peut-être, beaucoup de plaisir à imaginer ces salles administratives, parce que finalement, c'est pas ça qu'on raconte d'habitude dans des romans ou dans des bandes dessinées. Et j'ai trouvé que ces scènes administratives, elles ont leur petit piquant. On les vit d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, quand on travaille comme moi dans les musées. Et j'avais envie de montrer cet envers du décor, qu'on comprenne aussi quels moyens Pierre Donnelac déployait pour ses objectifs. Alors en plus, on voit au tout début que c'est un peu malgré lui au début. Hein. Pierre Donnelac, il est très moderne, il est visionnaire, mais il se laisse un petit peu embarquer aussi dans quelque chose quand on le sollicite pour faire visiter le château à des personnalités politiques. On le choisit d'ailleurs parce qu'il n'est pas très important.
Ouais, mais il est malin, puis je pense qu'il aime être flatté, et puis à l'endroit où il va monter, parce qu'il va devenir un personnage très important du monde de la culture et des arts en France à cette époque.
Tout à fait. On le sait, moi j'ai beaucoup interrogé ses descendants aussi. Il entretient comme ça un réseau politique, un réseau de personnalités. J'ai retrouvé dans ses mémoires, il avait même un appartement à Montparnasse pour passer certaines nuits à Paris, pouvoir aller dans les soirées.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, même si c'est évident de le dire, c'est que maintenant nous on y va en RER, c'est très simple, mais c'est qu'à l'époque le train est beaucoup plus long. Il y en a beaucoup moins que maintenant, mais surtout, on y va encore en charrette. Et il y a une scène que moi, j'ai beaucoup aimée, qui est vraiment géniale. C'est quand il a besoin de cadre et que son collègue du Louvre va lui prêter, sans le dire, sous le couvert du secret, toute une collection de cadres historiques, et que tout ça va partir en charrette du Louvre à Versailles.
Ça, c'est d'autant plus génial que c'est véridique. C'est comme ça que Pierre Donnelac le raconte dans ses mémoires, hein, ce Georges Lafenestre. Alors moi, ça m'a encore plus plu, d'autant que j'ai travaillé 8 ans au château de Versailles et que ça fait 3 ans que je travaille au musée du Louvre. Donc le château de mon père est publié alors que je travaille au musée du Louvre. Donc j'ai même pu en parler avec mes collègues, hein, qui travaillent sur l'histoire du musée du Louvre. Il y a un service histoire du Louvre au musée. Et donc j'ai pu même affiner les dernières planches avec eux. Ce Georges Lafenestre qui nous prête des cadres et qui dit bah oui, prenez ces cadres parce que nous, de toute façon, au Louvre, ils n'en manquent pas. C'est en même temps une solidarité assez formidable et en même temps, ça montre la supériorité déjà du musée du Louvre à ce moment-là par rapport à Versailles.
Ça serait encore possible, ça, de prêter des cadres comme ça sans le dire, sans.
Sans le dire, je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de dépôts, il y a beaucoup, beaucoup de liens forts entre les musées, aussi beaucoup de solidarité encore. Sans le dire, sous le manteau comme ça, je ne suis pas sûre que ça se ferait encore, parce qu'aujourd'hui, on doit consigner, on doit aussi tout consigner, ce qui est un petit peu normal. Donc, alors peut-être que Georges le consigne, hein, après tout. Hein, l'histoire ne dit pas si les cadres ont été rendus après je ne sais pas.
Non, mais il y a un côté réjouissant de débrouille qui est agréable à lire, en tout cas.
Tout à fait. Et puis, ce côté débrouille, alors qu'on est en train de construire le métropolitain rue de Rivoli, Georges lui dit, évitez la rue de Rivoli, il y a les travaux du métropolitain. C'est, moi, j'aimais bien ces points de friction comme ça, où en même temps, on a un jeune conservateur à la débrouille avec sa charrette et les cadres du musée du Louvre, et tout d'un coup, une espèce d'entreprise titanesque qui est le creusement des sols parisiens pour la construction.
Mais c'est ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est que c'est à la fois l'histoire du Louvre, l'histoire d'un homme, d'une famille, on va y venir parce que c'est très important dans la bande dessinée. Tout ça est inséré dans l'époque. Il y a l'exposition universelle, il y a le métro, il y a la guerre, il y a la belle époque, il y a tout ça. Ça, je trouve que c'est très important pour que tous ces gens s'insèrent dans leur époque.
Tout à fait, ça c'était une vraie volonté aussi de notre part de vraiment comprendre les personnages dans leur époque, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme au théâtre parfois, y a des metteurs en scène qui arrivent à formidablement bien incarner un personnage ou une époque alors qu'il n'y a qu'une chaise et 2 personnes sur le plateau. Nous on avait besoin qu'il y ait tout un décor autour. Et je me suis beaucoup aussi éloignée de Pierre de Nolhac et de Versailles pour comprendre cet environnement. Je n'ai pas raté une seule exposition qui parlait de cette époque. Je me souviens être allée voir une exposition sur Oscar Wilde, par exemple, au Petit Palais. Je suis beaucoup allée voir du Feydeau au théâtre. Je me suis régalée à regarder la série Downton Abbey à ce moment-là, parce qu'elle venait de sortir. Une série comme Downton Abbey qui est sortie alors que je commençais déjà à travailler là-dessus. Pour moi, c'était du pain béni. La série commence le jour du naufrage du Titanic ou le lendemain, en 1912. Je me suis beaucoup éloignée pour mieux y revenir et ça nous a vraiment permis, tant au scénario qu'au dessin, de jouer avec ces personnages et d'essayer que leur environnement soit le plus historique et vraisemblable possible.
Alors, avant de parler de la famille de Pierre de Nolhac et de la bande dessinée en tant qu'objet, de parler du dessin notamment, il y a un épisode sur lequel je voulais revenir avec vous. Bon, comme on est dans Bulle d'Histoire, on parle de bande dessinée historique et donc souvent d'épisodes guerriers. Il y a toute une partie de la bande dessinée qui est importante, parce que pour Pierre de Nolhac, ça va être très important. C'est la guerre de 14, parce que les hommes de sa famille vont partir à la guerre. Lui, il est trop vieux, donc il va pas y aller. Donc, il y a ce côté un peu dramatique où on attend que la rentrée, le retour des hommes de la famille. Mais le château est un endroit très important pendant la guerre de 14, notamment pour les troupes anglaises. C'est-à-dire que c'est un lieu de rassemblement des armées dans la cour et autour du château, mais c'est aussi un lieu où les hommes vont venir se délasser, venir en villégiature, les blessés notamment. Et ce qu'on sait moins, c'est que ça va devenir un potager géant mis en place par la société Truffaut, qui existe donc depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Parce que ça, c'est personne ne le sait, ça, en fait.
Oui, personne ne le sait parce que, en fait, on s'est beaucoup intéressé au musée et à l'exode des musées pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands, on le sait, vont spolier beaucoup d'œuvres dans les collections françaises. On s'est beaucoup moins intéressé à ce qui s'est passé dans les musées pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il n'y a pas cette occupation. Et du coup, il y avait tout un champ à explorer sur le château de Versailles pendant la Grande Guerre. D'abord, au tout début, ils cachent les œuvres en pensant comment. Eux, ils ont dans leur référence à ce moment-là, c'est 1870. Et donc, vous vous souvenez, on a parlé de l'occupation de la Galerie des Glaces par les Prussiens. Donc, ils ont tout de suite ce réflexe de se dire les Allemands risquent d'arriver jusqu'à Versailles. Donc, on va cacher les œuvres. Ils les cachent quand même dans les caves. Et puis, une partie des œuvres partent dans le Midi par train spécial. Et puis après, en effet... le château de Versailles vit au temps de l'économie de guerre. Donc, d'abord, il est fermé par souci de protection. Par les gardiens sont mobilisés, partent au front. Et puis, petit à petit, on va se dire comment ce domaine peut servir. Donc, l'ambulance anglaise, comme vous le rappelez, s'installe à côté du Trianon Palace, dans les jardins. Truffaut. Donc on connaît encore aujourd'hui les magasins Truffaut. Truffaut est chargé d'organiser une grande pépinière de légumes dans les jardins. Les fruits et légumes sont emballés à l'orangerie même pour être envoyés sur le front. Et c'est des régiments militaires indochinois qui viendront assurer les récoltes, ce qui fait des images complètement... incroyable et étonnante du domaine de Versailles à ce moment-là. Ça fait aussi partie du camp retranché de Paris, donc une partie du parc qui est creusée. Il y aura même aussi beaucoup d'opérations de camouflage. On peint les verrières des toits pour pas que la lune s'y reflète et pour pas que l'aviation allemande puisse repérer le château. On camoufle le Grand Canal quand même.
Oui.
Sacrée entreprise. Le château de Versailles vit aussi... sa guerre, on protégera aussi des statues, ça c'est Benjamin Chaussemis, le nouvel architecte en chef, qui va créer beaucoup de supports pour protéger toutes les statues du parc. Et malheureusement, la Première Guerre laissera quand même, en même temps, le château en lumière avec la signature du traité le 28 juin 19, et en même temps, dans un certain état de dégradation, parce que tous les efforts de Pierre de Nolhac sont pas réduits à néant, mais bon, sont quand même amoindris par le passage de la guerre.
Donc on a parlé beaucoup du château, il faut parler d'une partie très importante qui est très bouleversante. La famille de Pierre de Nolhac habite dans le château, et ça va être à la fois un lieu magique pour Pierre de Nolhac qui va s'en emparer, pour les enfants quand ils sont petits, parce que grandir au château de Versailles, on a un peu d'espace et on a des jardins, et c'est assez merveilleux. Mais en même temps, ça va devenir aussi un lieu d'enfer pour sa famille, parce qu'il va y perdre deux enfants, il va divorcer de sa femme, enfin, où elle va divorcer de lui. C'est très bouleversant parce qu'on est dans deux histoires à des échelles totalement différentes. Il a des problèmes avec ses enfants, avec ses fils, il s'entend plus avec eux. Voilà, vous avez vraiment entremêlé cette histoire personnelle avec l'histoire du château.
Oui, l'idée c'était d'humaniser aussi ce personnage principal qu'est le château finalement. C'était encore une fois un petit peu comme les personnages dans leur temps. Ben là, c'était ces petits personnages, cette famille, comment ils peuvent vivre dans ce château qui est en fait dans ce château sans doute un peu trop grand et trop prenant. On a vraiment restitué là aussi le plus possible la vérité historique, c'est-à-dire que les Nolak se séparent bien, alors ils ne divorcent pas pour ne pas créer le scandale, mais ils se séparent bien en 1909. Pierre de Nolak est un homme dur, hein, ça c'est aussi beaucoup ses descendants qui me l'ont raconté. C'était très important de raconter cette histoire par le prisme de Henri, hein, du second fils de Pierre, parce que je voulais vraiment garder cette liberté de raconter cette histoire à travers le prisme familial. Bah, on se rend compte en fait, hein, petit à petit, que effectivement, plus le château retrouve une certaine place et plus les actions de Pierre de Nolak pour le château grandissent, plus la famille en fait se déconstruit, disons, marquée par les deux deuils en effet, mais marquée aussi par Pierre de Nolak, qui est certes moderne pour son travail, mais peut-être pas si moderne que ça pour sa famille. C'est un Auvergnat qui est dur, qui ne transige pas. On le voit déjà quand ses enfants sont assez jeunes, hein.
Oui.
Quand on voit la rentrée scolaire.
Oui, parce que c'est vraiment le pater familias, quoi. C'est lui qui décide de tout. Quand ses enfants se marient, bah c'est la mère qui doit négocier âprement avec lui pour qu'au final ils disent oui. Bon, au final il dit oui, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est effectivement un homme très dur. C'est pas un homme très agréable quand on lit la bande dessinée. Quoi.
Non, et ça, c'est avec Alexis, on en a beaucoup beaucoup discuté parce qu'on voulait pas en faire un héros total non plus. Justement, on voulait rester au plus près de ce qu'il a été, et c'était très important pour nous de modérer ce personnage, un personnage ou un héros qui sont bien sous tout rapport. C'est réservé sans doute aux super-héros, et encore que tous les super-héros ne sont pas bien sous tout rapport. Bah, Pierre de Nolak, voilà, il est simplement humain, quoi. Et on voulait vraiment mettre aussi en valeur ses défauts et ses aspects beaucoup plus durs, où parfois on se demande si on l'aime ou pas, ce personnage, hein.
Oui, tout à fait. L'auteur de cette bande dessinée, c'est Alexis Vitrebert. Donc, il y a un co-scénariste qui est Jean-Baptiste Weber et un storyboarder qui est Stéphane Lemardelet. Mais Alexis Vitrebert, je crois que c'est sa première bande dessinée.
Tout à fait.
Et pour une première bande dessinée, on peut dire que c'est vraiment un coup de maître, parce que la maîtrise est assez extraordinaire. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un superbe album en noir et blanc, au lavis. Un jeu sur les grilles qui est assez envoûtant, je dois dire, parce que par moments, on tombe dans des cases et on n'arrive plus à en sortir. Et en même temps, c'est à la fois une grande maîtrise poétique, mais il y a beaucoup, beaucoup d'humour, notamment dans les visages. Là, je suis sur la page de Charles Gosselin, et voilà, on rigole. Franchement, quand on voit les visages, même Pierre de Nolak, les enfants, ça, c'est vraiment une immense réussite.
Eh ben merci, il sera heureux de l'entendre. Alexis, c'est sa première bande dessinée. Après, il est peintre aussi, c'est un artiste qui travaille depuis longtemps, hein. Il a un petit peu plus de 40 ans. Donc voilà, sa première bande dessinée, mais pas son premier coup d'essai, je dirais. Et effectivement, il a un dessin sublime. On s'est rencontrés au Festival Angoulême. Moi, je cherchais un dessinateur pour ce projet. J'en avais déjà croisé plusieurs et il y avait déjà eu plusieurs essais, mais il y a quelque chose encore qui me travaillait. Et je suis tombée sur un dessin du métro parisien, figurez-vous, d'Alexis. En plus, Alexis vit à Bordeaux, donc le métro Paris, il ne vient jamais à Paris. Et quand j'ai vu ce dessin du métro parisien, je me suis dit, je crois que c'est lui. Je l'avais même pas encore rencontré. Et puis, Alexis, au tout départ, avait pas très envie de travailler sur Versailles. Vous voyez que c'était pas très bien embarqué au début. Et puis finalement, en fait, il avait pas envie de travailler sur Marie-Antoinette ou sur Louis XIV, en tout cas sur ce Versailles-là. Et donc, quand je lui ai envoyé le synopsis, ça tombait bien parce qu'il a été assez séduit par l'histoire de Pierre, d'Alix et de Versailles de la Belle Époque. Il s'y est vite attaché et c'est incroyable parce qu'il est peu venu à Versailles pendant tout le projet. Il a beaucoup travaillé depuis son atelier à Bordeaux avec beaucoup, beaucoup de documentation historique que je lui ai fournie et que lui aussi, sur laquelle lui aussi a travaillé. Et il a déployé en effet une palette dessinée autour de Versailles qui qui est incroyable. Même moi, j'en reste un petit peu bouche bée. Il a parfois ajouté des cases qui n'étaient pas au scénario et qui laissaient comme ça un petit temps suspendu. Et on a eu une collaboration très, très riche. Et ce projet, c'est vraiment le résultat de cette collaboration où lui a amené, a beaucoup amené aussi.
Parce que ce qui est étonnant, c'est que c'est un album sur Versailles, donc on peut imaginer qu'on sera dans les grandes ors de Versailles, dans le siècle de Louis XIV, et d'avoir fait le choix du noir et blanc, ça rajoute une distance poétique qui est en fait assez inattendue.
Oui, au début, on était parti un peu, pour tout vous dire, on était parti un peu sur du sépia au tout début, et on s'est dit que le sépia c'était dangereux. Parce que ça nous amuse tous de regarder 2-3 cartes postales sépia 1900, et en fait, au bout d'un moment, c'est assez ennuyeux. Et on a considéré que sur un roman graphique assez long comme ça, ça pouvait vite donner un petit côté poussiéreux. On a fait des tests en couleur. Moi, c'est vraiment une histoire que je n'imaginais pas en couleur depuis le départ. Je ne l'ai jamais imaginée en couleur. Du coup, moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer ce cap. Et Alexis n'était pas forcément convaincu. On n'avait pas très envie de voir les ors versaillais, parce que c'est pas cette histoire-là qu'on racontait, justement. Et puis moi, en plus, j'y allais tous les jours à cette époque à Versailles, et je voyais déjà les toits dorés tous les jours. C'est pas ce Versailles-là que je voulais raconter. De toute façon, en 1900, Versailles, il n'y a plus aucune dorure sur les toits. Donc, tant qu'on était dans des nuances de gris, et tant qu'on pouvait restituer, justement, cette histoire un peu parfois ambiguë, ou l'ambiguïté des personnages, et notamment de Pierre, à travers le dessin... tant que cette technique nous permettait ça, moi ça m'allait aussi très bien.
Bah juste pour conclure, je voudrais parler de la couverture, parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien réussie, et le rapport entre le château et la famille est très intriguant, et ça donne vraiment envie de le prendre dans la main et de l'ouvrir. Voilà Maïté, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces longues minutes passionnantes avec moi. Je rappelle donc tout ce qu'il faut savoir sur ce magnifique album. Le titre, c'est Le Château de mon père, Versailles ressuscité. L'éditeur, c'est La Boîte à Bulles. Je pense même que c'est coédité que Château de Versailles. 154 pages et le prix, c'est 24€. Donc c'est quasiment donné. Et il faut se rendre chez les libraires pour acheter Le Château de mon père. Merci beaucoup, Maïté.
Eh bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.